On aime bien dans l'Évangile les histoires spectaculaires, quand il ressuscite des morts, calme des tempêtes, change l'eau en vin. Et il y a aussi dans l'Évangile des passages qui ne sont pas du tout spectaculaires, comme celui en Marc 1, 29 à 31, où Jésus guérit la belle-mère de Pierre de sa grippe. Bon, c'est plutôt intéressant comme procédé, mais on en parle assez peu. Et en effet, on lit dans ce passage que Jésus sort de la synagogue où il était et que là, il va, après l'office, il va déjeuner chez Simon-Pierre. Et là, il trouve sa belle-mère qui est malade. Alors, il la guérit et puis, en lui tendant la main, elle se lève et puis finalement, elle va suivre Jésus pour le servir. C'est une des premières actions du Christ que l'on nous montre dans l'évangile de Marc. Et c'est dans un lot de guérisons assez étonnantes. Et nos éditeurs, en général, inscrivent au début de ce texte « guérisons diverses ». Bon, guérisons diverses, c'est-à-dire sans grand intérêt. Ce texte est particulièrement difficile pour moi parce qu'il est trop simple et qu'on lui prête peu d'importance. Je vous ai dit, certes, je comprends, une guérison, c'est toujours une bonne nouvelle. Jésus nous relève, il nous ouvre les yeux, il nous permet de marcher droit, il nous ressuscite même quand nous sommes au fond du gouffre. Mais là, que Jésus guérisse une grippe, j'avoue qu'à première vue, je ne vois pas trop l'intérêt de ce passage. Alors, on pourrait dire que peut-être que le simple fait que ce soit simple est déjà un message, ça peut être une idée, voilà. En effet, on voit Jésus là dans sa vie quotidienne et c'est assez touchant. On voit d'abord qu'il va à la synagogue, bah comme vous au culte, bah c'est bien, pourtant c'était quand même Jésus, il aurait pu dire « moi j'en ai pas besoin, je connais les discours », mais Jésus il allait à la synagogue le samedi, comme vous, vous allez au temple dimanche et comme moi je vais au culte, même si je ne prêche pas, et bien c'est bien. Ensuite, ça nous ressemble tellement, on nous dit qu'il va aller déjeuner chez ses amis. Ben, voilà, après le culte, on va déjeuner chez les uns et les autres, il va chez Pierre. Et puis là, il ne fait pas que de déjeuner, il soulage quelqu'un qui est là, même si ce n'est pas très grave, c'est quand même assez touchant, c'est-à-dire ce Jésus qui va se préoccuper même de quelque chose d'a priori secondaire, enfin ce n'est pas très grave, elle avait une fièvre, bon c'est bon, mais il s'en préoccupe. Et ce Jésus qui est prêt à s'intéresser même à nos petits problèmes, ça me touche beaucoup. Parce que parfois, on pourrait avoir ce sentiment de se dire, mais moi, mes problèmes, qu'est-ce que c'est pour Jésus c'est, ou pour Dieu, ça ne l'intéresse pas. Eh bien si, Jésus voit quelqu'un qui a un petit problème et il va s'en occuper, donc il va essayer de l'aider et il va le faire. Et puis après, on nous dit qu'il s'en va. Bon, il continue sa route, il continue son chemin, il s'en va. On le voit, nous dit le texte, qu'il se retire pour aller prier tout seul dans la montagne. Ça, c'est intéressant aussi, ce Jésus qui ne fait pas que d'agir et que des bonnes œuvres, mais qui trouve le temps d'un petit moment de retraite. Et tout cela me touche beaucoup, parce qu'on voit un Jésus très proche de nous, je dirais, et qui n'est pas le surhomme intouchable, mais c'est un Jésus très quotidien, où on voit dans sa vie un équilibre entre la recherche de Dieu, entre la rencontre des autres, le service qu'il rend, entre un temps de prière qu'il conserve et le fait d'être là et parfois de s'éloigner, enfin tout ça est très bien. Mais vous disais-je, quand même, je ne suis pas sûr que ça suffise à expliquer l'importance de ce texte parce que ça reste quand même assez peu important comme affaire, c'est un peu anecdotique pourrions-nous dire. C'est pas les grandes guérisons de Jésus absolument spectaculaires et ça a tellement peu d'intérêt que la plupart des commentaires de ce texte disent « Écoutez, on n'a rien à en dire, à mon avis, ça doit être un souvenir autobiographique de Pierre ». Donc certains pensent que du coup Pierre serait peut-être l'auteur de l'évangile de Marc et qu'il a mis un souvenir, c'était sa belle-mère, donc il s'en souvient, il l'écrit. Bon, cet argument ne me convient pas du tout parce que Marc est vraiment l'évangile le plus concis, enfin, il fait 30 pages, donc il n'a pas le temps d'aller raconter la guérison de la rougeole du petit dernier ou de la fièvre de la belle-mère, enfin, c'est pas du tout le genre. Quand Marc dit quelque chose, c'est que ça a une importance capitale. Si Marc prend la peine de dire quelque chose, c'est que c'est essentiel. Et donc il y a quelque chose à trouver là, et ce quelque chose à trouver, elle est c'est pas le simple fait qu'il ait guéri une fièvre. Si vous voulez, Jésus, c'est pas juste un professeur Raoult de 1000 ans avant notre époque. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce texte. Et d'ailleurs, il y a des éléments qui nous font penser qu'il faut y prendre autre chose, c'est que à la fin de ces guérisons diverses, comme disent nos commentateurs, Jésus dit au verset 38 « Allons ailleurs pour que j'y prêche aussi. » Ben oui, mais avant, il ne prêche pas, il guérit. Ah, du coup, je me dis, mais peut-être qu'effectivement, ces guérisons sont des prédications. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose à interpréter et à comprendre. Et donc, il y a un message. Bon, c'est ce que je fais sans arrêt, mais je pense que c'est juste, si vous voulez. La plupart des guérisons de l'Évangile sont des sortes de paraboles qui nous parlent d'une guérison intérieure, enfin, d'un autre ordre, d'autre chose que juste un phénomène médical. Bon. Alors du coup, comment on va trouver à quoi renvoie cette fièvre? Alors la méthode, il y en a plusieurs, mais il y en a une là qui, à mon avis, peut fonctionner. C'est celle que préconisait, vous savez, Louis II, qui a traduit la Bible protestante à la fin du XIXe siècle, et qui faisait des Bibles à parallèle, c'est-à-dire sur chaque verset, il mettait tous les passages de la Bible qui sont en référence à ça. Et parce qu'il disait... C'est pas la peine de mettre des notes en dessous pour expliquer aux gens comment l'interpréter. Seule la Bible interprète la Bible. Et donc l'idée, c'était de dire, si on veut trouver un sens à un verset, il faut lire tous les autres versets qui y ressemblent ou qui renvoient à ça. C'est d'ailleurs un procédé de lecture rabbinique. Les rabbins ont plusieurs clés de lecture pour l'écriture, et il y en a une qui s'appelle le remez, qui veut dire, quand on lit un texte, ça fait allusion à quel autre texte. Donc, j'ai pris mon ordinateur et je me suis dit, où est-ce qu'on parle d'une fièvre dans la Bible? Alors là, c'est simple, il n'y a qu'un seul verset, un seul, dans toute la Bible. Un seul, c'est en Deutéronome 28, 22, un passage assez curieux que vous pourrez lire, si vous voulez, à partir de Deutéronome 28, 15, où il y a, c'est assez long, je ne vous l'ai pas lu, mais... pas vous ennuyer, mais vous pourrez le lire. Il y a deux paragraphes. Le premier, c'est des bénédictions. Et il dit, si tu es fidèle à Dieu, si tu écoutes Dieu et que tu es fidèle, ça va être formidable. Tu auras toutes sortes de bénédictions, tu auras de la paix, la vie, l'abondance, tout ça, tout ira bien. Mais si tu éloignes, si tu t'éloignes de Dieu, si tu le refuses, alors là, ça va être autre chose. Et suit tout un catalogue de malédictions. Et donc celui qui s'éloigne de Dieu, il est condamné à des tas de problèmes et à des maux divers, dont la fièvre. Voilà. Il dit, si tu t'éloignes de Dieu, eh ben, tu auras la fièvre. Alors, ce passage de Deutéronome 28 est dur. Et on le cite assez peu, mais en général, on ne cite que les bénédictions. On aime mieux ça. Les malédictions, on ne les cite jamais. Hein. Ça, personne ne les cite. Parce que l'idée d'un Dieu qui punit si on ne lui est pas fidèle, j'avoue que ce n'est pas trop notre tendance. Et on n'aime pas ça. Et à juste titre, parce qu'a priori, Jésus non plus n'aime pas trop ça. Alors est-ce qu'on pourrait dire, oui, mais ça, on rejette les malédictions de Deutéronome 28 parce que c'est de l'Ancien Testament, ils avaient l'idée d'un Dieu brutal, mais en fait, aujourd'hui, Jésus nous présente un Dieu gentil. Non, ça marche pas non plus. Soyez honnêtes, dans l'Évangile, Jésus est souvent très sympathique, mais il y a quand même des menaces qui sont très dures. Ceux qui ne seront pas fidèles, ils seront jetés dans le feu qui ne s'éteint point. Tiens, le feu comme la fièvre, c'est le même mot que le feu, d'ailleurs en grec, hein, c'est de la chaleur. Et donc il y a plein de menaces aussi dans le Nouveau Testament. Mais alors du coup, comment comprendre même ces menaces? Parce que là encore, je suis désolé pour ceux qui veulent, pour les fondamentalistes qui veulent lire la Bible au pied de la lettre, mais déjà, personne ne croit que si on est infidèle à Dieu, on aura de la grippe. Je dirais, les croyants n'ont pas moins de fièvre que les incroyants. Donc c'est faux, si vous voulez. Ça ne va pas d'un point de vue matériel, ça ne fonctionne pas. Et donc la grippe, la fièvre dont il est question même dans les malédictions de Deutéronome 28, ce n'est pas une fièvre matérielle, c'est une fièvre intérieure. Et du coup, je peux comprendre même ces bénédictions et ces malédictions, aussi bien de Deutéronome que de l'Évangile. C'est non pas que Dieu punisse, parce que je ne crois pas que Dieu punisse, mais c'est des conséquences. Et il dit, et je crois que c'est vrai, que en gros, le bien génère du bien et que le mal génère du mal. Et que si celui qui vraiment dans sa vie essaye d'être fidèle à Dieu, mais Dieu c'est quoi? C'est d'inviter à pardonner, à aimer, à servir. Celui qui essaye d'aller dans le sens de la fidélité à Dieu, de toutes ces valeurs de l'Évangile, écoutez, sa vie est une bénédiction. C'est que du bonheur de donner, c'est que du bonheur de se tourner vers l'autre, c'est que du bonheur d'être en paix avec son frère ou sa sœur, avec tout le monde. C'est une merveille. Donc oui, d'être fidèle à Dieu, c'est une bénédiction dans la vie. Et inversement, si on s'éloigne de cela, c'est pas que Dieu punisse, mais celui qui fait de sa vie que du ressentiment, de la jalousie, de la haine, de la violence, excusez-moi, mais je n'en vis pas sa vie. Il ne fait qu'attirer sur lui de la jalousie, de la haine, de la violence, de la brutalité, de la méchanceté. Et donc, je pense que d'une certaine manière, on récolte un peu ce qu'on sème dans la vie. Donc je ne crois pas au châtiment éternel après la mort, mais néanmoins, ici même, déjà dans notre vie, l'Évangile, c'est quand même une vraie source de bénédiction. Et j'allais dire, vendre son âme au diable, c'est une source de malédiction, c'est vrai. Alors du coup, revenons à cette fièvre. Si on est infidèle à Dieu, si on fait de sa vie que de la jalousie, du désir matériel et autres, est-ce qu'on a plus la grippe? Non. Mais est-ce qu'on attrape une fièvre? Oui, une brûlure intérieure. Voilà, c'est ça. On attrape une fièvre intérieure qui nous rend mal à l'aise. Moi, je sais, c'est arrivé sans doute à vous, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir de la fièvre. Quand on est de la fièvre, on est soi-même, mais on n'est pas bien. Voilà, en fait, on n'est pas bien. Et ce sentiment de ne pas être bien, c'est ça peut-être, quand on n'est pas aligné, je dirais, par rapport à sa nature profonde et divine qui est d'être un être de lumière. Et quand on est en contradiction avec la vie, eh bien, on est mal. Voilà. Donc, on est comme quand on a la fièvre. Ou alors, on peut aller plus loin en disant que cette fièvre aussi, effectivement, elle n'est pas matérielle, mais c'est une brûlure intérieure. Le commentateur de l'Ancien Testament, Rashi de Troyes, disait, en commentant ce passage, dit cette fièvre qui est promise, je dirais, par le texte si on est infidèle, il dit c'est pas une fièvre extérieure, il dit, je cite, c'est un feu intérieur qui donne une soif perpétuelle et inextinguible, c'est-à-dire une sorte de désir profond à l'intérieur de soi qui n'a jamais de fin. Et je crois qu'effectivement une vie, je dirais, une vie matérialiste, si on est dans le désir de posséder, on ne possède jamais assez. Voilà. Et quoi que l'on possède, il manque toujours, à la fin du mois, ce dont on se dit, ah, si j'avais ça en plus, ça irait mieux. Voilà, en plus, et bien toujours plus. On veut toujours plus, on n'a jamais assez. Et donc, le désir matériel, c'est toujours plus. Le désir de puissance, aussi. Je dirais, le fou qui aime la puissance, le paranoïaque, il va jamais s'arrêter. S'il a un pouvoir, s'il possède l'Europe, il voudra le monde. Et s'il a le monde, il voudra le cosmos. Ça n'en finit jamais. Et de même, celui qui est jaloux ne sera jamais rassasié. Le jaloux, il trouvera toujours quelqu'un qui a plus que lui ou qui a ce qu'il n'a pas, et il est condamné à n'être jamais heureux. Et donc à toujours être dévoré à l'intérieur de lui-même par une sorte de fièvre qui est un désir insatiable et qui le rend en permanence d'une façon insatisfait. C'est ça qu'on disait, vous savez, lors de la ruée vers l'or, on parlait de la fièvre de l'or. Voilà, la fièvre de l'or, c'est pas ça se soigne pas au Doliprane. La fièvre de l'or, ça se soigne intérieurement, psychiquement et psychologiquement et spirituellement. Alors Jésus, justement, voilà. Ça, c'est ce que dit le Deutéronome, mais il donne pas trop de solutions, si ce n'est de dire, donc, vous n'avez qu'une hypothèse, soyez juste. Mais oui, mais Seigneur, c'est pas si simple, parce que j'y arrive pas toujours, en fait. Et c'est là où il y a, dans cet épisode de Jésus qui guérit la fièvre de la belle-mère, quelque chose qui, pour moi, est extraordinaire. Parce que, en fait, d'abord, ça montre que Jésus, qui la représente un peu Dieu, c'est pas lui qui donne la fièvre, Mais s'il est quelque chose, c'est celui qui l'enlève. Donc déjà, oui, c'est quand même franchement une bonne nouvelle, si vous voulez. Jésus, il n'est pas là pour dire « t'as été infidèle, t'auras la fièvre ». Celui qui a la fièvre, il l'enlève. Et ensuite, il est même pour celui qui a la fièvre. Et même si c'était sa faute, je connais pas Madame Belle-Mère hein, de Pierre, mais même si c'était sa faute, c'est pas la question. Quelqu'un souffre et il y a en Jésus une source de fraîcheur, une source de salut, une source de vie. Donc Jésus nous guérit de cette fièvre. Il est sans dire t'as qu'à te comporter correctement et ça ira mieux. Il nous guérit, point, sans question. Il nous libère. Il nous guérit comment ? Ben parce qu'il nous libère du désir exalté. Il nous libère en mettant de la fraîcheur dans notre vie et en disant, mais dans le fond, mon ami, tu as tout ce que tu veux, puisque, écoute, tu es aimé par Dieu, tu es pardonné, tu as le droit de vivre en paix, tu es accepté. Donc, accepte ta vie avec amour, même pour toi, et accepte d'être comme tu es, et ça ira mieux. Donc, Jésus nous donne cette eau fraîche. C'est ce qu'il dit à la Samaritaine, en Jean 4, hein, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc voilà, c'est comment on éteint un feu, une fièvre, c'est le même mot, en mettant de l'eau, et l'eau, c'est Jésus. Tout va bien. En effet, je vous disais déjà, Jésus agit, va donner cette rémission à la belle-mère de Pierre, et ensuite, il agit par amour et sans condition. Sans rien demander, c'est même assez étonnant, hein. Il pose aucune condition à la belle-mère de Pierre. Il lui dit pas « agis bien et ça ira mieux ». Il lui dit pas non plus « mais si je te guéris, est-ce que tu vas profiter de ton énergie pour bien te comporter ?» Non, il le guérit, point, et c'est tout. Et ça, c'est quand même assez formidable. Et le fait de ce Jésus qui ne juge pas la belle-mère de Pierre, qui simplement écoute sa souffrance, me fait penser à ce passage formidable dans Jean aussi, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais afin que quiconque croit en moi soit sauvé. » Il dit « Celui qui croit en moi, il n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. » Voilà, il n'est pas jugé. Ça n'est même pas que Jésus nous dise « Tu es coupable, mais néanmoins, bon, je te pardonne et je t'accepte. » Jésus vient vers nous et il ne nous juge même pas. C'est avant même le pardon, formidable. Quelle est la seule chose que Jésus demande ? Ben peut-être de tendre cette main qu'il tend vers la belle-mère de Pierre. Accepter cette main tendue, c'est peut-être ça la foi, et d'accepter d'être guéri, d'accepter le Christ, d'accepter une bonne nouvelle, d'accepter d'être aimé, d'accepter d'être pardonné. Et pour ça que quand Jésus dit qu'il n'est pas jugé, il y a quand même une petite condition, celui qui croit en moi. Croit en moi, c'est pas avoir une foi formidable, mais c'est dire, oui, moi je veux bien de cette bonne nouvelle, je l'accepte. Si vous n'en voulez pas, Dieu ne peut pas vous sauver de force. C'est pourquoi Paul dit en Éphésiens 2, vous savez, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Oui, c'est pas nous qui nous sauvons par nos œuvres, c'est Dieu qui nous sauve. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit Paul, par le moyen de la foi. La grâce, c'est ce qui nous sauve, et la foi, c'est le oui à la grâce. Alors donc, Jésus est non seulement source de bénédiction, mais en plus, il annule la malédiction qui est représentée par la fièvre, et il nous libère même du mal que nous mériterions. Et en fait, ça me concerne et ça nous concerne tous, parce que dans le fond, nous sommes tous pécheurs. Tous, plus ou moins, hein, nous oublions Dieu de temps en temps. Tous, nous sommes, il faut bien l'avouer, plus ou moins esclaves de nos désirs idiots et matériels. Nous sommes tous plus ou moins jaloux, forcément, des uns et des autres. Et nous avons tous, de temps en temps, des désirs de vengeance. Et nous sommes tous, peut-être surtout moi, souvent vaniteux, susceptibles, orgueilleux, j'en sais rien. Donc, ben oui, on est franchement, quand je lis le catalogue de Deutéronome, là, sur les malédictions et les bénédictions, je me dis que oui, je mériterais toutes les malédictions du monde. Hein. Si je devais être jugé sur ce que je suis, j'aurais de quoi craindre. Nous sommes tous pécheurs. Et donc, on mériterait des choses terribles. Et en fait, Jésus nous guérit, il nous libère, et il nous fait passer de la mort à la vie. Ah oui, parce que tiens, le texte dit, Jésus l'a pris par la main et la releva. Alors, si vous suivez un peu les cultes ici, vous le savez depuis ce temps que le mot « relever » dans la langue de l'Évangile, « egeiren », c'est le mot utilisé pour la résurrection. Et donc « egeiren » est traduit là par « il la releva » et dans d'autres passages plus loin par « ressuscita ». Et donc c'est pas simplement qu'il guérit de sa fièvre, il la ressuscite, il la rend à la vie. C'est une résurrection. Et moi je me dis, mais tiens, mais c'est incroyable. Voilà que la résurrection, c'est tout le message de la fin de l'Évangile. Et au début de l'Évangile de Marc, dans le premier chapitre, que fait Jésus? Il ressuscite quelqu'un. Ça, c'est quand même épatant. Et après, on me dit, c'est une guérison diverse sans intérêt. Mais non, attendez, excusez-moi, la résurrection, c'est pas un détail de l'histoire. Alors oui, voilà, c'est une résurrection. Pourquoi? Parce que notre péché nous condamnerait. Mais en fait, le Christ est plus fort que notre faiblesse et il nous sauve. Et puis, c'est même plus que ça, parce que quand je vous disais qu'on est pécheur, tout ça, c'est pas pour que je fasse un examen de conscience avec toutes les imperfections que j'ai pu avoir. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous connaissez mon goût immodéré pour l'hébreu. Évidemment, je vais aller chercher, comme on dit, une belle-mère en hébreu. Ce que je ne savais pas, je vous le confesse, hein, mais peut-être que vous le savez, moi je ne savais pas. Et là, j'ai désolé pour les belles-mères. Belle-mère en hébreu, ça se dit chamot. Et chamot, on ne sait pas pourquoi, mais ça vient de cham, qui veut dire brûlant. Tiens, c'est drôle ça. Cham, ça veut dire brûlant. C'est le feu. Et donc la belle-mère, en hébreu, le nom belle-mère, ça veut dire celle qui brûle. Et voilà, celle qui a la fièvre. Tiens, alors du coup, on nous présente une belle-mère qui a de la fièvre. Mais je dirais, la question, c'est même pas de savoir qu'est-ce qu'elle a fait comme erreur, comme faute. C'est sa nature profonde. C'est inscrit dans son nom. Elle est, par nature, fiévreuse et brûlante. C'est inscrit dans son nom, c'est comme ça. Voilà, c'est sa nature. Et du coup, sa fièvre, je dirais, c'est même pas une erreur de sa part dont on pourrait dire, écoute, belle-mère, tu pourrais quand même être un peu moins jalouse de tes copines. C'est pas ça. C'est sa nature profonde, elle est comme ça, elle y peut rien. Elle est chamote, elle est brûlante, voilà, elle est fiévreuse. Et comme nous, je dirais, le péché qui est en nous, notre imperfection, elle est constitutive. Nous sommes incapables d'être parfaits. Oui, on peut faire le décompte de nos erreurs, mais c'est pas ça la question. C'est que dans le fond, nous sommes imparfaits, voilà. C'est l'imperfection humaine est une donnée de l'humanité. C'est, appelez-le le péché originel si vous voulez, c'est comme ça. C'est comme ça, vous pouvez vous corriger, essayer de faire moins de fautes, moins d'erreurs, vous serez toujours imparfait. C'est comme ça, c'est la nature profonde de l'homme d'être imparfait. Et ce que nous dit ce texte, qui pour moi est absolument incroyable, c'est que quelle que soit notre imperfection congénitale, dirais-je, et profonde, eh bien le Christ s'approche de nous et il nous relève. Il nous ressuscite et il nous guérit. Et même, il nous guérit d'autres choses aussi, parce que, on pourrait dire, cette pauvre belle-mère, comme elle s'appelait Chamot, la brûlante, elle était prédestinée à être brûlante. Il y a une sorte de déterminisme. Et là aussi, il y a quelque chose qui me touche. Peut-être que Jésus nous dit, vous pouvez être libre par rapport à vos déterminismes. Parce que on prétend, vous savez que, je sais pas moi, les enfants qui ont été battus deviennent des parents qui battent. Ou à l'école, à un moment donné, on disait en fonction des résultats scolaires, on peut prédire à l'avance si le gamin, quand il aura 16 ans, il sera délinquant. Mais c'est dingue, si vous voulez, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas parfois des liens à faire entre certaines situations, mais ce qui est important, c'est de dire il n'y a pas de déterminisme. Et nous sommes toujours libres par rapport à ce déterminisme qu'on veut nous coller. Vous êtes né comme ça, donc vous devez être comme ça, vous avez subi ça, vous devez faire subir ça. Non, le Christ nous libère, il n'y a rien qui soit inscrit dans nos gènes, dans notre histoire, qui nous contraigne à rester enfermés dans nos déterminismes comme dans des ornières. Et donc nous pouvons être libres et nous libérer de tout cela. Et ensuite, effectivement, le Christ nous libère du péché originel aussi et nous libère de tout cela par un amour qui est plus fort que tous ces déterminismes. Alors oui, après vous me direz, voyez, c'est un petit miracle sans importance. Ben, je ne suis pas sûr, hein, vraiment. Plus ça va et plus je me dis que Marc, il a bien dû rigoler. Je vais mettre un petit miracle, une belle-mère de Pierre, là, sa fièvre, ça va être très drôle. Et en fait, mais à ma connaissance, personne, j'ai jamais vu dans aucun commentaire quelqu'un qui commente cela. Hein. Je suis peut-être le premier depuis 2000 ans. Ah, enfin, ou alors si vous trouvez, vous me direz. Mais en tout cas, c'est quand même assez étonnant. Et puis ensuite, bon, la fin de l'histoire, elle est simple, hein, c'est qu'il nous montre ce que nous pouvons faire de ce salut. La belle-mère de Pierre, elle aurait pu rester tranquille à la maison en se disant « c'est bon, maintenant ça va mieux, j'en profite ». Mais non, elle dit qu'elle se lève et qu'elle suit Jésus pour le servir. Ça c'est beau, elle n'était pas obligée, hein, Jésus lui a rien demandé, hein, rien demandé, aucune condition. Si elle était restée chez elle, je pense qu'un jour ou l'autre, elle serait retombée dans une autre fièvre, elle serait retombée victime de son imperfection et elle aurait été de nouveau malade. Jésus aurait pu revenir et la guérir parce qu'il venait tous les samedis bouffer chez Pierre, donc il était souvent là. Hein. Mais peut-être. Mais en fait, le problème, c'est que même là, on nous montre que Jésus, il s'en va. Hein. Il est là, il mange avec Pierre et la famille. Ensuite, il s'en va, il dit « je m'en vais ». Il va ailleurs. Et il s'en va même quand on le cherche, Jésus. C'est assez bizarre. Et ça, je crois que c'est assez important. Jésus souvent s'éloigne, il n'est pas là où on pense, et quand on croit le posséder, il s'éloigne. C'est le cas des pèlerins d'Emmaüs, vous savez, ils disent « reste avec nous, car le soir décline », et Jésus dit « non, moi je vais plus loin ». Donc Jésus, il ne reste pas là pour dire sans arrêt « tu es aimé, tu es pardonné, tout va bien ». Le processus de vie est plus complexe. Ce qu'elle a fait, elle, est merveilleux. Elle s'est dit « puisque je ne suis pas sûr que Jésus reste toujours près de moi pour sans arrêt pouvoir me sauver quand j'en aurai besoin, c'est moi qui vais le suivre. C'est elle qui suit le Christ. » Voilà, ça c'est un très bon réflexe. Elle a rencontré le Christ, mais c'est elle qui décide d'aller le suivre. Et c'est ce que nous avons mieux à faire. C'est de reconnaître à qui nous devons cette libération, savoir où se trouve cette source d'eau fraîche de notre vie, et suivre Jésus. C'est le meilleur moyen de l'avoir toujours à côté de soi pour qu'il nous relève, voilà. Et lui avance toujours, il reste jamais sur place. Mais il ne faut pas attendre chez soi, dans son lit, que Jésus revienne à un moment ou l'autre. La meilleure chose, c'est d'y aller et de le servir. Servir, oui, parce que mettre sa vie au service de toutes ces valeurs qu'il prêche, hein, du pardon, de l'amour, du service du prochain, de l'humilité. Et quand on met sa vie au service de tout cela, ça change la vie, c'est merveilleux. Et on le fait pourquoi ? Parce que Jésus nous a sauvés. Jésus ne guérit pas la belle-mère de Pierre parce qu'elle le servait, mais c'est parce que Jésus l'a guérie qu'elle va le servir. Écoutez bien, parce que ça, c'est la base, c'est la découverte de toute la réforme protestante. Voilà, petite histoire sans intérêt, vous me disiez. Hein. C'est la découverte de toute l'histoire protestante, de dire « je ne fais pas du bien pour que Dieu m'aide et me sauve, mais parce que Dieu m'a déjà aimé et m'a déjà sauvé, je fais du bien par reconnaissance pour ce salut qui m'est offert en amont. » Et donc, vous voyez, le salut est premier, et il ne s'agit pas de travailler à gagner son salut, mais de répondre un salut qui nous est offert. C'est toute la théologie du salut par grâce que les réformateurs se sont battus à définir. Alors voilà, c'est pourquoi nous pouvons louer le Seigneur par son Fils Jésus-Christ pour toutes ces merveilles qui se trouvent un peu cachées derrière cet épisode apparemment sans intérêt, et pouvons louer le Seigneur de ce qu'il s'approche de nous, même quand nous ne sommes pas bien, de qu'il nous accepte même si nous sommes pécheurs et imparfaits, de ce qu'il accepte même de venir nous guérir et nous sauver même quand nous ne le méritons pas, de ce qu'il nous tend la main pour nous relever. Et nous voulons que chacun de nous sachions suivre Jésus ainsi, accepter cette main qui est tendue, qui nous est donnée, de nous relever avec lui et pouvoir ainsi suivre Jésus, le servir de tout cœur en reconnaissance pour cet amour inconditionnel qui est comme une main toujours tendue vers nous et qui nous dit son amour et qui nous pardonne, nous relève et nous donne la vie. Amen.